Un grand merci à Cyber Ta Vie, qui est notre partenaire. C'est une initiative portée par Radio France qui vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux de la cybersécurité. On a travaillé tous ensemble pour vous permettre de mieux comprendre ces enjeux. Cette émission se veut la plus accessible possible pour les personnes qui, comme moi, sont un peu larguées en matière de cybersécurité. Ça touche la cybersécurité, ça touche nos vies personnelles, ça touche les sociétés dans lesquelles on vit, ça touche notre démocratie, nos entreprises, les relations internationales. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire. Ce sont les thèmes qu'on va aborder ensemble ce soir. Mais d'abord, on va s'intéresser au métier de la cybersécurité. On va casser les clichés. Non, travailler dans la cybersécurité, ce n'est pas que pour les geeks en sweat à capuche. Non, il ne faut pas nécessairement avoir fait des études d'ingénieur en informatique pour travailler dans la cybersécurité. Pour commencer cette discussion, j'accueille trois invités exceptionnels que je remercie d'être venus. Un tonnerre d'applaudissements pour Yann Bonnet. Yann, tu es le directeur général du campus cyber. Tu vas nous dire dans un instant ce que c'est. Merci d'être avec nous, cher Yann. Nous sommes également avec Ilona Baud. Salut Ilona. Tu es étudiante en première année de bachelor en administration système et réseau à La Plateforme, qui est une école du numérique qui se trouve à Marseille. Merci d'être avec nous, Ilona. Et enfin, nous sommes avec Livia Tiberna.
Bonsoir.
Livia, tu es CTI analyst pour Sequoia, une entreprise française de cybersécurité. Tu vas nous expliquer dans un instant de quoi est-ce qu'il s'agit. On va commencer avec toi, mon cher Yann. Explique-nous, comme si on avait 5 ans, ce que c'est la cybersécurité, s'il te plaît.
Bon, du coup, la cybersécurité, en fait, j'aime bien reprendre des propos d'un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler. Quand il parlait de numérique, il parlait de remèdes et de poisons pour notre société. En fait, le numérique, c'est...
Le remède pour des poisons ?
D'un remède et d'un poison pour le numérique. C'est à la fois quelque chose qui nous permet de s'éduquer, s'informer, jouer. Et en même temps, c'est des nouvelles menaces, cette société qui se numérise, avec des possibilités d'influencer les opinions publiques. Ça a un impact sur notre planète. Et il y a des nouvelles menaces, qu'on appelle des menaces cyber, où, en gros, un certain nombre d'attaquants vont pour différentes motivations, soit vouloir espionner un objet connecté pour des raisons politiques, par exemple. Exemple, Macron Leaks en 2017.
C'était le piratage de la campagne électorale d'Emmanuel Macron.
Exactement. On a aussi d'autres motivations, par exemple l'appât du gain, se faire de l'argent. Donc en fait, ce qu'on ne se rend pas trop compte, mais aujourd'hui, voilà, l'impact de la cybercriminalité, le coût de la cybercriminalité, c'est plus, ça représente plus que la vente de la drogue, et c'est moins, en quelque sorte, malheureusement, moins risqué, et ça apporte plus que ce type de choses. Donc, on a différentes motivations, et en fait, face à ces nouvelles menaces, on a différents acteurs qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, qui vont être là pour justement protéger en amont, éviter un certain nombre d'attaques ou réparer après des attaques.
Un truc important à comprendre, c'est que contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, la cybersécurité, ce n'est pas qu'un truc d'informaticien.
Clairement.
Ça concerne tout le monde.
Et clairement, on est tous concernés. Voilà, c'est dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Concrètement, une attaque d'un hôpital, dans les minutes qui suivent, c'est des infirmiers, des infirmières qui ne savent plus quels médicaments ont été prescrits. Une mairie qui est attaquée, c'est une mairie qui n'arrive plus très bien à gérer les passeports. On a des gens, des diabétiques qui ont des pompes à insuline sur eux. S'il y a une faille, on peut prendre la main sur ce type d'objet. Donc clairement, ça nous impacte dans nos vies quotidiennes, et ce n'est clairement pas que l'histoire des informaticiens ou des geeks à capuche.
Il y a beaucoup de défis dans le monde de la cybersécurité, mais l'un des plus importants, il paraît que c'est celui du recrutement. Tu peux nous expliquer ?
Oui, plus notre société se numérise, plus on a besoin de différents talents. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 postes non pourvus en France. Ça, c'est des chiffres de l'OCDE de l'année dernière. C'est 3,5 millions.
60 000 postes non pourvus dans la cybersécurité
en France. 3,5 millions au niveau mondial. Et pourtant, c'est des métiers, on va le voir avec les témoignages, mais c'est des métiers qui ont du sens. C'est des métiers de la protection, du care. C'est des métiers qui sont accessibles. Et voilà, c'est important, et merci à toi pour cette invitation, parce que ça nous permet de mettre en avant ce sujet qui nous concerne tous et sur lesquels c'est important de se sensibiliser, de se former et peut-être de créer des vocations parmi les jeunes ou les moins jeunes.
Alors justement, on a des talents autour de la table, on a Livia notamment. Toi, tu es CTI analyst. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors CTI analyst, CTI pour Cyber Threat Intelligence, parce qu'on aime bien les termes en anglais dans la
cyber. Cyber quoi ?
Cyber Threat Intelligence,
threat, okay,
ce qui
menace.
Voudrait dire renseignement sur la menace cyber en français.
D'accord, donc tu es un mélange entre détective privé et agent de contre-espionnage.
On pourrait dire ça.
Explique-nous en quoi consiste ton travail.
Alors, il vient de parler justement de la menace cyber, voilà, qui est croissante, grandissante depuis assez longtemps, et c'est une tendance qu'on voit depuis à peu près tout le temps. Et un métier d'analyste au CTI consiste en l'analyse et la contextualisation de cette menace. Donc, un analyste au CTI, il va s'intéresser à la menace. Après, la menace est un terme assez large. Ça va être qui, quoi, comment, pourquoi, qui finance, quelles sont les campagnes, quelle est la timeline, par exemple, etc. Et nous, on va s'intéresser, on va construire une base de connaissances autour de ces menaces avec comme finalité de la détecter et de l'anticiper.
D'accord, ok. C'est quoi ton parcours à toi, Olivia ?
Moi, j'ai fait des études en relations internationales. Je me suis intéressée très vite à l'intelligence économique. Donc, je travaillais un peu dans l'investigation numérique, mais sur des dossiers économiques. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de faire la même chose dans la cyber. Ça m'a passionnée. Voilà, je fais ça depuis plus de 5 ans maintenant. Et puis aujourd'hui, les enjeux cyber sont vraiment très liés aux enjeux géopolitiques aussi. Donc voilà, chacun trouve sa place. Et puis pour la compréhension vraiment extensive de la menace cyber, il est important d'avoir différentes approches, donc techniques comme géopolitiques.
On est d'accord que tu n'as aucune formation particulière d'ingénieur, d'informaticienne Tu as fait de l'intelligence économique, tu as fait des relations internationales et de l'intelligence économique.
Tout à fait. Ensuite, on a des formations internes et puis c'est ça qui est enrichissant dans la cyber. On travaille avec des profils très différents. Aujourd'hui, on est une équipe d'une vingtaine d'analystes, techniques ou pas techniques. Donc, quand je dis technique, c'est effectivement ingénieur informatique le plus souvent. On a des linguistes, on a des experts en géopolitique et puis on se forme mutuellement. On fait des points hebdomadaires avec des formations techniques comme des formations plus géopolitiques et de la veille géopolitique internationale. Et puis, c'est ce qui est enrichissant. On arrive à tous avoir des parcours et des connaissances assez complémentaires.
Ok. Ilona, toi, tu viens de commencer tes études de cybersécurité, mais avant ça, tu avais fait des études qui n'ont rien à voir.
Non.
Tu faisais quoi ?
Elles sont très pratiques parce que j'ai fait des études d'anglais. Donc, comme Ilona disait, beaucoup de termes en anglais, beaucoup de documentation en anglais. Donc, ça me permet de comprendre, en fait, tous les cours, les informations. Ça me permet de progresser plus vite.
Tu as un diplôme en anglais ?
Oui, la licence, j'ai fait 2 ans de master.
Et tu as fait 2 ans de master en anglais. Ok, d'accord. Oui, donc effectivement, j'imagine que c'est pratique. En cybersécurité, il y a beaucoup d'anglophones, on est d'accord ?
Oui, et pas seulement.
Yann ?
Oui, mais pas seulement. On a besoin, en fait, de plein de cultures différentes, de compréhensions différentes des sujets pour être efficace.
Okay, d'accord.
C'est surtout pour le partage. C'est une communauté où il y a beaucoup de partage. Et puis pour faciliter ça, c'est vrai que la langue de communication est très souvent l'anglais.
Ilona, c'est quoi ton école dans laquelle tu étudies actuellement qui s'appelle La Plateforme ? Comment ça marche ?
Nous, La Plateforme, c'est une école, on a un an de prépa pour nous former à toutes les bases pour pouvoir être prêt à rentrer sur le marché de l'emploi, pour pouvoir faire après 2 ans d'alternance et décrocher un titre RNCP6, moi, la cyber, c'est l'administration infrastructure sécurisée.
Okay.
Donc c'est sur 3 ans et ça nous donne un équivalent de Bac+3.
Ok, d'accord. C'est quoi toi le métier que tu vises avec ces études ?
Moi, j'aimerais travailler en tant qu'analyste SOC, donc Analyst Security Operations Center, donc analyste de centre d'opération de sécurité. C'est plutôt les personnes qui vont, après une attaque, analyser ce qui s'est passé, comment l'attaque a été faite, les conséquences, si des données ont été volées, corrompues ou modifiées, et les conséquences que ça peut avoir sur le système. Voilà. Donc, c'est plutôt de l'analyse forensique, comme la police scientifique, en fait.
D'accord. Tu nous as parlé, quand on a préparé cette émission, tu nous as parlé de Blue Team et de Red Team. Ça désigne quoi ?
Oui, alors on a... La Blue Team, c'est plutôt le côté défense, qui va défendre les systèmes pas liés aux failles, les vulnérabilités. Et la Red Team, c'est ceux qui vont essayer de pénétrer dans les systèmes. On a des jobs de Red Team qui sont justement une simulation d'attaque sur une entreprise. L'entreprise ne sait pas qu'ils sont attaqués, c'est programmé comme ça. Et ils vont essayer de pénétrer dans le réseau. Des fois, ça peut aller jusqu'à... Les gens prétendent être... des opérateurs de fibre pour entrer dans les locaux, avoir accès au serveur, brancher une USB ou un implant pour pénétrer dans le réseau et compromettre le système.
Livia et Ilona, toutes les deux, c'est quoi ce qui vous intéresse le plus dans vos métiers ou vos futurs métiers ?
C'est un monde qui change très vite. Donc, c'est très stimulant intellectuellement. On en apprend tous les jours. On travaille avec des équipes, avec des experts, des équipes multidisciplinaires et des experts vraiment qui viennent des milieux très différents, avec des backgrounds étatiques ou privés, avec des formations, des études très différentes. Donc, c'est extrêmement enrichissant. Et puis, on travaille sur des menaces qui nous concernent tous, des menaces qui vont concerner encore plus de monde dans le futur. On a tous des usages numériques croissants. Donc, voilà, les enjeux sont majeurs. Et puis, c'est gratifiant de savoir qu'on peut contribuer à réduire la menace, voilà, idéalement.
Ilona ?
Un peu pareil, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours une nouvelle faille, un nouveau moyen de défendre. C'est très uno contre uno contre uno.
Ouais.
Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de recherches et c'est très varié comme domaine. Donc en soi, je pourrais rester dans la cyber et me retirer complètement dans un aspect différent. La cyber, donc garder toujours quelque chose de nouveau. Il y a de l'administratif, de la recherche, du juridique, des fois avec la RGPD notamment.
Ouais. Yann, tu es d'accord sur un environnement qui change en permanence ?
En permanence, notre société, elle se transforme et cette vitesse, elle est juste assez impressionnante. Et cette dépendance aussi à cet outil numérique est assez impressionnant. Et c'est vrai que moi, quand je vous entends, voilà, on voit que ces métiers, derrière les métiers de la cyber, c'est plein de métiers. Il y a plus de 30 métiers différents. Il y a des métiers techniques, tu as parlé de pentester, tu as des métiers qui sont beaucoup moins techniques, de géopolitique, de communication, de droit. C'est pour ça qu'on a besoin de plein de talents différents. Et c'est vrai que, voilà, avec toute cette transformation, cette vitesse, on a besoin de beaucoup de diversité pour être le plus performant et mieux protéger notre nation.
Ilona, on va aborder le sujet qui fâche. Est-ce que ça gagne bien, la sécurité, la cybersécurité ?
Alors oui.
Oui ?
Beaucoup de métiers, ça en gagne très bien dans la cyber, justement, comme c'est un domaine en pleine expansion. Et dès qu'une entreprise subit une attaque, soudainement, le budget de la section cyber augmente. Donc oui, ça veut rapporter très bien. Il y a beaucoup de métiers, mais beaucoup d'entre eux rapportent, notamment forcément ceux qui sont ingénieurs cybersécurité. Il y a un salaire d'ingénieur derrière.
Ouais, j'imagine. Livia, est-ce qu'il faut sensibiliser à la cybersécurité dès le plus jeune âge, tu penses ?
Je pense que ça peut être la clé pour attirer de nouveaux talents surtout, puisque souvent on a ce problème de, on n'arrive pas à recruter les bons experts et surtout avoir une parité, voilà, correcte. Et puis on se rend compte que parfois c'est trop tard, faut aller parler aux élèves, aux jeunes, parfois même aux parents, puisque quand on ne connaît pas qu'un métier existe, on ne peut pas avoir envie de devenir analyste SOC, analyste SIT, etc. Donc je pense qu'approcher des écoles, c'est très important, et puis c'est aussi une invitation à mes collègues, n'hésitez pas à partager vos expériences. Je pense que parfois avoir un profil qui inspire devant soi peut motiver plus que, voilà, qu'autre chose que voir un... Des papiers ou des documents. Voilà.
Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais je vois. Yann, tu es d'accord, il faut sensibiliser assez tôt ?
Le plus tôt possible, parce qu'on voit les jeunes, les très jeunes, sont très souvent directement devant des écrans, et donc il faut qu'ils comprennent cet univers qui n'est pas que virtuel. D'ailleurs, j'invite, il y a un super livre qui est sorti qui s'appelle J'apprends à hacker dès 9 ans de Sarah Sellos. C'est un très très beau cadeau à faire.
Et 9 ans, j'apprends à hacker.
Okay, voilà.
C'est un livre, ok.
Et en fait, hacker, voilà, on a souvent cette image du hacking négatif. Et en fait, le hacking, c'est un esprit de curiosité. Sauf que certains hackers vont passer du mauvais côté de la force et vont le faire pour de mauvaises raisons et vont un jour ou l'autre se faire attraper. Et puis d'autres gardent cet esprit de curiosité en respectant un certain nombre de règles. On va en voir tout à l'heure.
On va en recevoir sur ce plateau, bien sûr.
Et voilà, c'est assez important en fait de garder cet esprit de curiosité. Donc oui, il faut sensibiliser très tôt. Il faut aussi qu'on casse les codes, les biais. Souvent, en fait, quand on discute avec des psys qui sont spécialisés dans le domaine, on s'aperçoit. Là, je pense que notre panel est on manque de plein de talents, notamment de talents féminins, mais pas seulement. Et on a un rôle à jouer en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que prescripteurs, à casser ces biais cognitifs qu'on a très tôt, dès 8 ans. Voilà, c'est pas parce que tu es une fille que tu seras plutôt littéraire ou parce que tu es un jeune homme, tu seras plutôt scientifique. Il n'y a aucune raison valable à ça. Et c'est à nous, en fait, de changer très tôt les codes. Donc, il faut sensibiliser et montrer que les métiers de la cyber, du numérique, sont accessibles à tous.
Il y a un autre enjeu, selon toi, de la cybersécurité, c'est ce que tu appelles le passage à l'échelle. Ça veut dire quoi ?
Oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. La cybersécurité, c'est devenu, le numérique, c'est devenu tellement important dans nos vies perso et pro partout que proportionnellement, on a des menaces un peu à plein d'endroits. Et donc, c'est pas normal en fait qu'aujourd'hui, malheureusement, je grossis un peu le trait, mais que seulement les gros acteurs, par exemple du CAC 40, arrivent à se protéger. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a plus de 95% de notre tissu économique qui sont des PME. Et les PME, quand on regarde les chiffres, elles sont très attaquées aussi en ce moment. Une attaque d'une PME, en moyenne, ça peut être jusqu'à 100 000 euros de coûts pour la PME. C'est 100 000 euros pour une PME, c'est souvent le début de la fin. On a besoin de rendre la cyber accessible au plus grand nombre, pour que ça soit moins coûteux. Et quand on est dans la rue, on sait qu'on peut être en sécurité, on peut appeler tel ou tel acteur pour si on a un problème. C'est la même chose dans le monde numérique. Il faut absolument qu'on puisse avoir confiance et avoir cet état de sécurité aussi.
Ouais, je vois. Livia, ton métier, tu l'as dit tout à l'heure, consiste à comprendre et contrer les menaces cyber. Elles viennent d'où, les principales menaces cyber ? Est-ce que c'est un cliché si je dis Russie, Chine ?
Alors, la réponse courte serait la menace est globale. Les attaquants sont partout. Ensuite, si on essaie de repartir comme ça géographiquement, alors il y a certains patterns, mais après, ce serait vraiment simplifier trop la chose. Quand on parle de la menace étatique, donc là, c'est les États qui attaquent, les services de renseignement derrière les États qui attaquent. Effectivement, on va parler plus de la Russie, de la Chine, de l'Iran. D'où aussi l'intérêt pour les langues. On a parlé un peu langue. Il y a un concept que dans la cyber, les langues rares qui sont très recherchées justement pour se rapprocher au plus près de l'attaquant et comprendre un peu mieux la menace. Ensuite, il y a même chez les cybercriminels, donc ils vont chercher à se faire de l'argent. Il y a certains types de menaces qui sont plus ou moins présentes sur certains territoires. Par exemple, la menace ransomware, on a certainement tous entendu parler.
C'est la menace quoi ?
Ransomware.
Ah, ransomware, oui.
C'est une menace principalement russophone. Alors, pour plein de raisons, c'est sur des forums russophones qui s'organisent entre eux. C'est souvent malheureusement aussi des territoires qui sont pas soumis à la législation internationale ou qui coopèrent pas trop avec d'autres pays. Ensuite, il y a d'autres menaces, surtout les menaces bancaires qui sont très présentes en Amérique latine. Donc, il y a plein de raisons qui font que, selon la typologie de la menace, les attaquants sont plus ou moins localisés dans certains pays ou territoires. Mais voilà, de manière générale, la menace est globale. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde asymétrique. Tout le monde a accès à Internet. On peut avoir un attaquant qui a un impact incroyable sur un pays ou sur une société d'un secteur critique. Et puis voilà, c'est peut-être erroné aujourd'hui de se dire on va évaluer l'impact d'une campagne selon le pays d'origine ou selon qui est derrière, parce que justement, la menace est asymétrique.
Ilona, comment on fait pour rester à jour vu que les menaces sont aussi changeantes que vous le décriviez tout à l'heure ? Parce que moi, je vois, par exemple, je m'intéresse à la politique. Ça change souvent au quotidien, mais les structures profondes, elles ne bougent pas trop. On peut rester à la page, je veux dire, en politique. J'ai l'impression que, de vu ce que vous me décrivez, que ça change à toute vitesse, en permanence. Comment vous faites pour rester à la page ?
Alors justement, dans la cyber, il faut rester concentré sur son domaine, parce que c'est peut-être aussi parce que comme c'est tellement varié, vous voyez de tout, de partout.
Oui, c'est vrai.
Faut suivre les professionnels de notre milieu. On a beaucoup de podcasts aussi en cyber, des fois qui parlent des dernières vulnérabilités, des dernières failles qui ont été trouvées, beaucoup d'articles. Donc c'est juste un travail de veille, mais ça c'est dans tous les domaines de l'informatique, en soit en cyber ou en développement. Il faut toujours faire de la veille, toujours être au fait des dernières nouvelles, et ça fait partie du travail.
Ouais, non mais je comprends. Je suis très admiratif. Hein, je trouve ça assez spectaculaire la capacité que vous avez, Yann.
Et peut-être il faut. C'est extrêmement important dans notre domaine de travailler avec des chercheurs pour être au fait, parce qu'en fait l'histoire se répète régulièrement. On a quelques années, le cloud est arrivé et on n'avait pas pris totalement en compte la partie cyber dès le départ. Même si on revient encore plus tôt, les pères fondateurs d'Internet, en fait, ils n'avaient pas complètement pensé que ça prendrait autant de proportions et qu'il fallait chiffrer par défaut les mails et compagnie. Et c'est un peu la même chose. Là, on parle beaucoup d'IA depuis quelques années. C'est pareil, on a des nouvelles menaces et c'est en travaillant avec des chercheurs, avec des industriels, qu'on arrivera petit à petit à mieux suivre les évolutions de ces outils qui transforment nos vies.
C'est quoi le campus cyber dont tu es directeur général ?
Je suis le directeur général délégué.
Délégué, pardon. Oh là, excuse-moi. Voilà.
Le campus cyber, c'est un lieu qu'on a ouvert il y a 4 ans. Concrètement, c'est une tour où il y a chaque jour il y a à peu près 1000 acteurs, 1000 professionnels de la cyber qui sont là. On va croiser des étudiants qui viennent se former, il y a plein de différentes écoles, on va croiser des chercheurs, on va croiser aussi des personnes en uniforme de la police, de la gendarmerie qui sont en train d'enquêter sur des cybercriminels. Voilà, c'est un lieu où il y a tout l'écosystème qui travaille ensemble. Concrètement, ce qu'ils font, on organise par exemple des groupes de travail pour avancer ensemble, pour mettre un peu d'intelligence collective, parce que la France est un beau pays, mais on reste tout petit par rapport à des grosses puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine, ou pas que étatique, des géants du numérique, les Google, les Amazon et compagnie, ils ont une puissance assez importante. Et donc, on doit, au niveau français et même au niveau européen, travailler beaucoup plus ensemble. Donc là, on a ce lieu à Paris. Mais ça aurait aucun sens d'avoir tous les experts cyber, tous les pompiers, les cyberpompiers au même endroit. Donc on essaye de créer des campus aussi en région. Donc on en a déjà 5, un en Bretagne, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, région sud, j'espère que j'en ai pas oublié. Et on inspire aussi à l'étranger. La Lituanie, okay. J'ai vu aussi en Suède, et l'Allemagne veut créer aussi un campus cyber. Donc on essaye aussi de créer des liens en réseau, de produire ce qu'on appelle des communs de la cyber. En fait, c'est des ressources partagées, du renseignement, des cas d'usage en IA appliqués à la cyber, des sujets d'éducation, des ressources éducatives libres qu'on va mettre à disposition du maximum d'acteurs pour essayer d'élever notre pays.
Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de l'importance du défi du recrutement. Est-ce que le campus cyber joue un rôle en matière de recrutement ?
On a un rôle assez important, j'ai envie de dire, notamment grâce à un consortium qu'on a créé qui s'appelle Talent Cyber, que Somalina pilote, qui est dans la salle. C'est un consortium avec plein d'acteurs différents, des universités. C'est financé par l'État, en partie par France 2030. Et on a des universités, on a PIX, vous voyez ce dispositif qui permet de tester les compétences des collégiens, des lycéens. On a le CNED, on a l'ONICEP et on a Radio France aussi dans le consortium, qui pilote notamment cette initiative Cyber ta vie, qui est vraiment, qui a objectif...
Parle-nous de Cyber ta vie, ouais, explique-nous.
Ouais, l'objectif de Cyber ta vie, hein, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser et d'attirer aussi des nouveaux talents, alors jeunes ou moins jeunes, vers les métiers de la cyber. Il faut le voir un peu comme une plateforme. Il y a un site, hein, cybertavie.com, où on fait un certain nombre d'actions pour faire connaître, sensibiliser. On a aussi une plateforme qui s'appelle evolution.campuscyber.fr qui permet de mettre en avant toutes les différentes formations qui existent sur le territoire et d'aider aussi des jeunes ou des moins jeunes à trouver un stage, un apprentissage, un job.
Ilona, Livia, vous connaissiez Campus Cyber ?
On est membre du Campus Cyber avec Sequoia et justement on a l'occasion de participer à
Sequoia,
beaucoup
c'est le nom de la boîte dans laquelle tu bosses.
Tout à fait. Ouais. On a l'occasion de participer à pas mal d'initiatives et c'est très enrichissant. C'est surtout important pour cette occasion qu'on a de partager la connaissance puisque voilà, déjà pour éviter que d'autres gens fassent ce qu'on a déjà fait et pour gagner du temps. Parce que c'est un peu une course contre la montre aussi et contre les attaquants. Et puis pour s'enrichir collectivement et faire monter le niveau de la connaissance.
Ilona, tu connaissais toi ?
Oui, puisque mon école, la plateforme, fait partie du campus cyber, campus cyber sud dans mon cas, vu que je suis à Marseille.
Ça fait, il y a un paquet d'acteurs qui font partie de campus cyber.
C'est assez énorme, mais c'est un truc qu'on a lancé il y a 4 ans depuis rien, quoi. Donc c'est une sacrée aventure entrepreneuriale. Hein, donc le président de l'époque a fondé le campus, c'est un entrepreneur, Michel Vandenberg. On a un changement de président là tout récent, donc. Le nouveau président, c'est Geoffrey Célestin Urbain qui vient d'arriver. Et c'est vrai que c'est plein d'acteurs différents. L'image que j'aime bien me prendre, c'est un peu comme dans la nature, un écosystème qui est fertile, qui produit bien dans la nature. C'est que du bon sens, hein, ce que
oui,
je veux
bien
dire.
Sûr.
C'est un écosystème où on a besoin de vie, on a besoin d'abeilles, de plantes, et on a besoin aussi d'équilibre. Parce que si on a un acteur dans la nature qui est trop dominant, c'est le début de la pollution et on casse la chaîne de fertilité. Et moi, ma vision c'est par rapport au numérique, c'est qu'on doit travailler cet écosystème fertile et on doit travailler avec des acteurs divers, des grosses entreprises, des chercheurs, des acteurs des écoles. Et ce qu'on a fait, on est une structure privée mais un peu particulière, parce qu'on est détenu 40% par l'État, et on fonctionne un peu comme une SCOP. En fait, dans la gouvernance, les acteurs du CAC 40 pèsent autant que le monde, les acteurs de la recherche ou de l'éducation, ce qui n'est pas simple au début, qu'on a discuté au départ, mais ça a été accepté par tous pour nous obliger à penser intérêt général, j'ai envie de dire, avant les intérêts particuliers, et faire en sorte de créer ce terrain fertile pour, comme tu le disais, être plus fort, mieux partagé et inverser le rapport de force par rapport à ceux qui nous attaquent.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Je suis en quête de reconversion professionnelle. Est-ce un signe ?» Je pense, oui. Qu'est-ce que tu voudrais lui confier, Livia ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui réfléchit, qui voudrait se reconvertir professionnellement ? C'est quoi le bon endroit pour rentrer et pour s'interroger sur l'avenir sur son avenir professionnel ?
Je pense que la curiosité, déjà, c'est un très, très bon premier pas. Le monde de la cyber est un monde d'enthousiastes et de passionnés qui sont avant tout très curieux. Et puis, effectivement, comme Yann le disait, la cyber, aujourd'hui, touche vraiment tous les aspects de notre vie, qu'on soit, nous, individus, collectivités, entreprises, agences étatiques, etc. Donc, je pense que tout le monde peut trouver un peu... Voilà, son intérêt dans la cyber, il n'y a pas de profil type en fait, il n'y a que des compétences et les compétences qu'on a, il faut chercher à les mettre au profit d'une entreprise, d'une collectivité, d'une agence, peu importe. Et puis se former, s'intéresser, poser des questions, voilà, c'est très cliché mais il n'y a pas de questions bêtes, poser des questions, approcher des professionnels, suivre les équipes qu'on aime bien, des équipes cyber qu'on veut intégrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources mises même gratuitement en ligne, des webinars, des conférences. Aujourd'hui, une grande majorité des conférences sur la cyber sont disponibles sur YouTube gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce qui vous intéresse et puis vous comprendrez très vite si c'est pour vous ou pas.
On peut se former en autodidacte facilement, en tout cas sous forme d'introduction.
Alors, je pense que c'est la norme pour beaucoup d'experts en cybersécurité.
Ilona, tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui veut se réorienter ?
De justement démarrer avec des ressources en ligne gratuites pour voir s'il y a un intérêt dans la cyber, ça permet de bien démarrer sans se lancer forcément dans une formation. Et c'est un domaine qui, vraiment, le diplôme n'a pas tant d'importance que ça, parce que le plus important, c'est vraiment les compétences. Vous trouvez quelqu'un à qui vous prouvez que vous savez faire le travail, même si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez rentrer dans la cyber.
Ok. Yann, je voulais te poser une dernière question. L'an prochain, il y a les municipales. L'année d'après, il y a la présidentielle. Est-ce que tu penses que nos politiques sont au niveau en matière de cybersécurité ?
Comment répondre ? Je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire. Sincèrement, je pense qu'on a mûri, mais il ne faut pas oublier que tous ces politiques, en fait, ça peut être des cibles, comme nous, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi-même, je peux être une cible, je peux me faire avoir sur une tentative de phishing ou autre. Donc, premièrement, ils sont comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ils peuvent être victimes d'une cyberattaque. Et puis ensuite, ils ont aussi une certaine responsabilité et un devoir en fonction de qui on parle dans ces politiques. Mais je pense notamment au niveau régional. Et on a la chance d'avoir des acteurs... notamment en Bretagne, je pense à Jérôme Tréhardy ou au Pays de la Loire, Constance Nebula, qui prennent les sujets.
Qui font quoi ?
Qui font en sorte de créer des campus cyber territoriaux, qui font en sorte d'avoir des équipes d'urgence sur le terrain pour intervenir quand il y a des attaques. Donc voilà, ces hommes politiques ou ces femmes politiques... C'est extrêmement important qu'elles comprennent dans quel monde on vit, dans ce monde qui se numérise, qui pose des questions extrêmement politiques, ce numérique. Hein, ce n'est pas qu'une histoire de geek, c'est politique au sens de vie de la cité. Il n'y a pas de déterminisme technologique. En fait, malgré le discours de certains lobbies de géants du numérique, il y a des choix politiques à faire. On n'a pas exactement les mêmes choix entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, par exemple.
Il n'y a pas de fatalité.
Il n'y a pas de fatalité. Et donc, c'est pour ça que c'est politique. Et c'est pour ça qu'il y a des choix à faire. Et c'est pour ça que c'est important que ces hommes et ces femmes politiques comprennent ces sujets. Et heureusement, il y en a quelques-uns. Mais on espère que dans les années à venir et que les municipales et la présidentielle sera le moment aussi pour faire en sorte qu'on progresse encore plus vite sur ces sujets.
Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Merci beaucoup Yann, Ilona et Livia d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup à vous trois.